Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. Vous m'entendez bien avec le micro là ?
Ça faut attendre, je crois.
Ah, voilà. Merci pour cette invitation. Évidemment, j'ai beaucoup de plaisir à être ici. Alors, pour aller pas faire trop de temps dans la discussion, je dirais d'abord ce sont des plaisirs personnels, institutionnels et intellectuels. Alors, personnellement, compte tenu du genre de la circonstance qui nous réunit, il est difficile de ne pas dire quelques mots des liens que l'on a tissés avec Jean-Marie Danquin. Et j'espère qu'il ne m'en voudra pas de rappeler que si notre rencontre, finalement, quelque peu improbable, a eu lieu, c'est à cause ou grâce à une tierce personne qui est Antoinette Ashworth, et dont je ne peux pas ici ne pas saluer la mémoire. Donc, grâce à Antoinette, Jean-Marie et moi avons appris très vite quelques goûts communs pour des contes moraux et immoraux, pour l'humour libre, pour la mauvaise foi bienveillante, pour la réflexion indisciplinée. Et à ce titre, c'est aussi un plaisir institutionnel que j'éprouve ici devant vous, puisque personne n'est dupe, Jean-Marie Danquin est un agent double. Un agent double universitaire. Donc, comme il a été rappelé, il a navigué entre les bâtiments F de l'Université de Nanterre et l'Institut Michel Villet. Il a un agent double aussi disciplinairement, c'était aussi évoqué, puisqu'il fait partie peut-être des derniers des Mohicans, avoir investi avec une intensité à peu près variable la science politique et le droit constitutionnel. Avant que les premiers, si vous me pardonnez, le néologisme se sociologise et les deuxièmes se jurisprudentialisent. C'est ce que la lecture de l'ouvrage qui nous réunit aujourd'hui permet d'illustrer à merveille et donc me permet aussi d'évoquer le plaisir intellectuel. Alors pour aller directement au fond maintenant, et relever le défi du titre général de l'ouvrage « Penser le droit constitutionnel », j'articulerai mes propos en forme de commentaire sur ce qui me semble constituer la singularité de l'œuvre et de la pensée de Jean-Marie Danquin, que l'on trouve dans cet ouvrage, mais aussi que l'on trouve dans un autre petit ouvrage qui avait été publié chez Michel Audiard, éditeur, sur la politique et le langage. Et si j'ai, d'un mot, c'est toujours difficile de réunir en un mot cette pensée d'antienne, on va dire, je dirais que c'est une phénoménologie du droit constitutionnel, finalement, qui se dessine, une phénoménologie particulière, qui se dessine dans l'ouvrage et dans l'autre ouvrage que j'ai précité. Alors, pour l'expliquer, le commenter et interroger aussi Jean-Marie, j'articulerai le propos en trois temps, en soulignant les opportunités ouvertes par sa pensée phénoménologique, les difficultés aussi qu'elles peuvent soulever, et enfin, j'irai positivement, en conclusion, quelques mots sur la singularité de l'ouvrage et de la pensée de Jean-Marie. Donc, les opportunités, tout d'abord, la phénoménologie du droit constitutionnel proposée par Jean-Marie Danquin a pour point de départ, avant tout, une défiance pour l'ontologie essentialiste, mais aussi un certain refus, voire un refus certain, de sombrer dans l'idée que tout serait arbitraire dans les conventions qui conduisent à donner un sens aux mots qui désigne des objets, des phénomènes. Cette référence au phénomène est donc une façon personnelle de redonner une prise au monde conventionnel du langage. Il s'agit d'étudier le droit, et en particulier le droit constitutionnel, en tant que phénomène. Alors l'expression la plus nette, je l'ai trouvée dans l'ouvrage à la page 39. J'en ferai une citation, elle est assez longue, mais au moins elle permettra d'être à la base de la discussion du reste. Alors, cette indétermination, celle du droit constitutionnel, nous dit Jean-Marie Danquin, est ambivalente. Elle est absolue en ce qu'elle ne peut être limitée en droit. Il ne saurait exister de règles gouvernant l'édiction des règles, en ce que la règle supraconstitutionnelle de séparation des pouvoirs, par exemple, est purement arbitraire, ni de règles définissant le contenu des règles, le droit naturel, en ce en ce sens, revient à baptiser la difficulté et non à la résoudre, sous peine de régression à l'infini. La norme supérieure hypothétique a donc l'arbitraire d'un axiome, mais d'un autre côté, le réel présente des contraintes subjectives qui empêchent le droit constitutionnel de procéder exclusivement par axiome et déduction. Indéterminé en droit, le droit constitutionnel, est partiellement déterminé en fait et rejoint ainsi, d'une certaine manière, la vision du sens commun. Cette détermination demande à être décrite et pas seulement postulée. Fin de citation. Alors, je ferai à partir de ce passage, qui me semble caractéristique, quelques commentaires. Tout d'abord, elle exprime le refus assez significatif du jus naturalisme et d'une détermination essentialiste extérieure du droit, mais aussi, comme je l'ai dit, d'une nécessité d'une prise, d'une détermination que l'on suppose conventionnelle, sociale ou historique, mais c'est peut-être là déjà une petite difficulté ou incertitude, donc qui sera la source de ma première question à Jean-Marie. Quelle est la nature en fait de cette détermination qui réapparaît dans la phénoménologie? Deuxième commentaire, quoi qu'il en soit, cette détermination débouche sur un programme scientifique ou savant pour le droit constitutionnel, car nous dit Jean-Marie, cette détermination demande à être décrite et pas seulement postulée. Troisième commentaire, la description phénoménologique destinée à faire apparaître l'apparence, nous dit Jean-Marie, renvoie à des exercices de différenciation des phénomènes par des polarités qui les caractérisent et les singularisent des autres. C'est ce travail de description phénoménologique que Jean-Marie conduit dans ses articles sur différents objets du droit constitutionnel, sur la classification des régimes, par exemple, sur la dissolution, sur le plébiscite, le référendum, la majorité, la crise de la représentation, la démocratie, mais aussi sur le phénomène droit constitutionnel lui-même. Donc à ce titre, Jean-Marie va souligner l'apparence du droit constitutionnel. Et quelle est l'apparence du droit constitutionnel? On trouve développé ses caractéristiques à la page 55. Il en propose cinq caractéristiques principales. Donc le droit constitutionnel aurait pour objet, ou l'apparence du droit constitutionnel aurait pour objet la création d'institutions, la définition de compétences, la réglementation de l'activité normatrice, un régime de sanctions pénales pour les titulaires de la fonction exécutive, et enfin l'expression d'injonctions à destination de certains acteurs. Par exemple, le président de la République doit être le garant de l'indépendance nationale, on le sait tous, ou assurer par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Donc pour conduire ce programme, pour essayer de décrire ces objets, de saisir l'apparence, Jean-Marie Danquin offre quelques outils. Alors les outils, Jean-Marie Danquin, Jean-Marie, tu ne les explicites pas beaucoup, tu les utilises, mais tu ne les explicites pas beaucoup. En tout cas, moi je les analyserai comme justement intégrant un bagage plutôt analytique et logique, et qui emprunte aussi en très large mesure à la philosophie du langage. Et c'est ce qui rapproche sans doute ici tes travaux du Centre de théorie du droit. Donc Jean-Marie Danquin aime analyser les emplois ou les usages différenciés des notions pour montrer qu'elles peuvent désigner souvent tout et leur contraire, et que telle est le plus souvent la source de malentendus, des contradictions, des incohérences, des absurdités. Mais aussi, peut-être paradoxalement, c'est aussi source de ce qui stabilise les notions, puisque même si elles sont source d'incohérences, il y a bien un débat, même s'il est contradictoire, qui va donner sens, qui va donner finalement, on peut presque dire, qui va institutionnaliser la notion. Jean-Marie Danquin aime aussi traquer conséquemment les raisonnements tautologiques contradictoires, les risques de régression à l'infini, les pétitions de principe, soulever les équivoques des concepts utilisés et l'équivoque également de leur statut modal. Ici aussi, on retrouve des traits caractéristiques des démarches de Nanterre. Là, par exemple, on peut citer, parce que d'ailleurs ça se situe aussi dans la prolongation des études qui ont pu être faites, la question de la distinction entre le régime parlementaire et le régime présidentiel, toutes les interrogations sur la séparation des pouvoirs, qu'est-ce qui est séparable, quels sont ces pouvoirs qui sont séparables. Quand on aborde la séparation des pouvoirs, entre-t-on dans une logique de description ou de prescription? Évidemment, il y a confusion, et c'est ça qui finalement est intéressant pour Jean-Marie Danquin. Donc pour autant, l'analyse du langage et de ses usages ne signifie pas que le droit constitutionnel, ni le droit tout court, une expression que tu emploies, se réduisent à des mots. Comme tu l'écris, un donné préexiste, et l'on peut donc en avoir une intuition au sens kantien. Ces objets, les objets du droit constitutionnel, sont susceptibles d'être isolés du contexte et d'être distingués les uns des autres, d'être décrits à l'aide du langage. Donc cette proposition d'une phénoménologie du droit constitutionnel prend place dans un mouvement salutaire, selon moi, de démonstration que le droit constitutionnel contemporain n'est pas fatalement voué à être réduit à une analyse technicienne et dogmatique du contentieux constitutionnel, on pourrait dire aussi à une analyse contentieux du contentieux. Conviction et engagement que Jean-Marie Danquin partage avec les membres de l'Institut Michel Villet, les animateurs de la revue Jus Politicum, où sont publiés la majeure partie des articles de l'ouvrage, mais aussi avec des cadres d'analyse différents avec le Centre de théorie du droit. Dès lors, la proposition phénoménologique ouvre des pistes pour penser tout d'abord un objet élargi ou réélargi du droit constitutionnel. Le droit constitutionnel dit institutionnel n'a pas disparu avec l'émergence du droit constitutionnel dit jurisprudentiel. En d'autres termes, trivialement, le Conseil constitutionnel ne fait pas tout le droit constitutionnel en France. C'est une proposition généralisable ailleurs aussi pour les autres cours constitutionnels. Autre conséquence, également, finalement, cette proposition phénoménologique est une proposition à part entière qui pourrait aussi être exploitée pour le droit constitutionnel jurisprudentiel, même si finalement tu t'y es peu essayé. Donc il y aurait peut-être une deuxième question que je te poserais. Quelle pourrait être l'apparence, selon toi, de ce droit constitutionnel jurisprudentiel que mettrait en approche une évidence phénoménologique du Conseil constitutionnel et de ses décisions? Donc pour ma part, j'y vois une piste possible de théorisation critique au sens épistémologique du Conseil constitutionnel et de ses décisions, qui permettrait de revaloriser la science du droit constitutionnel français sur la scène internationale, dont elle est souvent cruellement absente. Car des propositions théoriques ont fleuri sur cette scène, même si c'est pour le meilleur et pour le plus discutable désignant ici des entreprises de justification et de légitimation sans retenue, et donc sans retour critique de l'institution des cours constitutionnels et de leurs conséquences, notamment sur le concept de démocratie, qui est une réflexion qu'on a eue souvent ensemble. Alors maintenant, j'aborderai les difficultés, quelques difficultés que j'ai relevées à la lecture des textes. Donc tout en partageant la démarche et la majeure partie des présupposés que tu as pu exposer, merci Denis, il y a quelques positionnements qui mériteraient selon moi des éclaircissements et qui sont sous interrogation. Souvent, en fait, parce que je sais que c'est une forme de ton état d'esprit, tu renvoies dos à dos certaines théories, certaines positions qui ont l'habitude de s'opposer, même si ce renvoi n'est pas toujours symétrique. Autrement dit, tu ne cherches pas forcément un moyen terme, mais tu essayes d'avoir une position, si tu me permets la métaphore rugbyistique, un peu de trois carrels, si tu veux, un trois carrels de repositionnement. Donc je pourrais en citer deux principaux terrains. Tout d'abord, les débats sur la critique de la théorie réaliste de l'interprétation. Finalement, je te sens plus proche de celle-ci que de ses critiques, en tout cas de sa critique normativiste. Et en même temps, à la fin de l'article, tu soulignes des difficultés que tu qualifies de graves contre la théorie réaliste de l'interprétation. Alors, c'est la gravité, moi, des difficultés que... Il y a des difficultés, mais c'est la gravité donc, que j'ai du mal à mesurer. Donc, je cite, « Si le juge interprète la loi au lieu de l'appliquer, pourquoi et comment les échelons inférieurs de la hiérarchie judiciaire et les agents d'exécution appliqueraient la norme posée par lui sans l'interpréter ?» Alors, je dis non, ça serait ma position, il y a bien réinterprétation. À dire vrai, il existe aussi une difficulté conceptuelle, mais qui, à mon sens, n'est pas tout à fait celle que tu soulignes ici, sauf si je n'ai pas bien compris. La difficulté, elle vient de ce que, pour la théorie réaliste de l'interprétation, c'est le texte qui s'interprète, pas la norme. Et donc, la difficulté surgit du fait que, s'il y a réinterprétation, on va être contraint conceptuellement de dire qu'on va réinterpréter la norme. Donc, il faut faire, je conviens bien, un tour de passe-passe consiste à stipuler que la norme redevient un texte. Donc il y a une forme d'artificialité ici. Donc je veux bien essayer de discuter, mais qui ne me semble pas tout à fait la difficulté que tu semblais souligner dans ce passage. Je continue. Cette critique ou cette grave difficulté que tu soulignais, si le juge suprême peut contraindre ceci à le faire, donc à exécuter la norme, pourquoi le législateur ne peut-il pas contraindre le juge suprême? Alors je dirais si, cette fois-ci, il peut le faire, il peut contraindre le législateur, il peut contraindre le juge suprême, pardon, mais en fait ce qui va différer c'est la nature des contraintes et leur degré. La contrainte entre les contraintes hiérarchiques qui peuvent exister entre le juge suprême et ses juges subordonnés, évidemment, d'une autre nature que la contrainte que le législateur pourrait exercer sur le juge et la Cour suprême elle-même. Donc il me semble qu'il y a bien une possibilité de contrainte, simplement les contraintes ne sont pas de la même nature. Alors, deuxième exemple de renvoi d'os à dos, qui n'est pas complètement symétrique, celle entre le juste naturalisme et le positivisme. Alors, il n'est tellement pas symétrique, ce renvoi, que tu te qualifies de positiviste au sens faible. Alors, c'est cette faiblesse que je voudrais interroger, puisque tu n'expliques pas, finalement, comment caractérises-tu ta faiblesse, ou en tout cas... ta position de positiviste au sens faible. Alors pour finir, je serai rapide, je voudrais souligner quelques singularités. Donc les articles de Jean-Marie Danquin proposent une idiosyncrasie personnelle qui explique pourquoi finalement, comme Bruno l'a dit, on retient la lecture de certains auteurs plutôt que d'autres. Il est toutefois possible que derrière l'explication personnelle, il existe aussi la manifestation institutionnelle que je soulignais en introduction d'un double investissement des sciences politiques et juridiques. Et à cet égard, donc, je poserai une dernière question. La possibilité de ce double investissement te semble-t-elle révolue aujourd'hui? Et si elle n'est pas révolue, quel type de dialogue peut-on réenvisager entre les deux disciplines et leurs acteurs pour penser le droit constitutionnel compte tenu de ce que ces deux disciplines sont devenues? Quelle que soit ta réponse, et quelles que soient les pistes générales d'intellectualisation de l'analyse du droit constitutionnel, donc qui pourrait être explorable par d'autres que toi, il reste que, de toutes les façons, à la lecture des travaux ici reproduits, il y a quelques éléments, une patte personnelle, une touche personnelle, qui, à mon avis, ne seront pas ouverts à la reproductibilité. Tes travaux font état d'une grande érudition, historique, politique, philosophique et juridique, bien sûr. Donc on peut lire, si on avait besoin d'en être convaincu, tous les articles sur la crise de 1877, sur la crise du référendum ou sur la crise de la représentation. Mais il y a aussi un style littéraire, Jean-Marie Danquin, souvent teinté d'humour, fin et pour initier, avec un goût des formules paradoxales, et si vous me le permettez, je finirai par quelques-unes de ces morceaux choisis. Alors, je soulignerai, même si ce n'est pas dans l'ouvrage, la monarchie aléatoire, il y a aussi cette phrase qui apparaît page 121. Si le droit n'est pas toujours efficace, où trouve-t-il parfois ce supplément dans lequel le droit suffisant ne suffit pas ? Ou, pour finir, une citation qui est à ma faveur, à condition qu'on ne la prenne pas au premier degré, qu'importe le législateur, pourvu qu'on ait les droits fondamentaux. Je vous remercie.